Et donc, pour resituer ra très rapidement dans le contexte, puisque comme c'était hier, normalement, ça va, c'est pas encore trop loin. Nous étions restés sur Intel qui répondait à la commande d'un fabricant japonais de calculatrices et qui y a répondu d'une manière très originale, puisque alors qu'on lui demandait de réaliser, enfin de concevoir 12 puces spécialisées, eh bien il en a fait une seule qui était programmable et donc généraliste. Et on en était resté sur le fait que, se disant qu'il y avait peut-être un potentiel en dehors du marché des calculatrices, Intel avait échangé une baisse du prix prévu dans le contrat contre le rachat des droits pour tous les marchés en dehors du marché des calculatrices. Et alors on en était resté sur le fait que ça revenait à un changement de logique, puisqu'on était passé d'une logique market pull, demand pull, à une logique techno push. Et donc, on va évidemment définir un petit peu plus précisément de quoi on parle, même si intuitivement, je pense qu'on se doute de ce que ça veut dire, hein. Mais bon, ça fait partie des typologies, on va dire, classiques de l'innovation. D'un côté, on a la vision qui part de la technologie, qui a été longtemps la vision dominante, notamment, sans doute, en raison de l'influence de l'économiste Schumpeter, hein, qui distinguait invention et innovation. L'innovation étant la mise sur le marché ou la mise en pratique quand il s'agissait de procédés de fabrication de l'invention. Donc on voit bien que dans cette logique-là, on a d'abord l'invention et ensuite l'innovation. Quand on est dans une entreprise existante, hein, ça veut dire que l'impulsion vient plutôt des services de recherche et développement. Et c'est, vous l'aviez deviné, ce type d'innovation-là qu'on appelle innovation technology push, ou le plus souvent à l'oral, on dit simplement techno push. L'innovation market pull, ça va être le symétrique, hein. C'est-à-dire que cette fois, on a un besoin qui est clairement identifié et on va tenter d'y répondre, soit en combinant des technologies existantes, soit en inventant des nouvelles technologies. D'ailleurs, il est important de faire attention au fait que ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de technologie dans le terme que du coup c'est quelque chose qui correspondrait en gros à l'innovation pour des produits de consommation courante, peu technologique. Ce n'est pas le cas, hein. Par exemple, ça fait 40 ans à peu près qu'on cherche un vaccin efficace contre le sida. Donc, le besoin est clairement identifié. On voit bien que c'est difficile à mettre au point, puisque ça fait 40 ans qu'il y a des recherches sur le sujet. Et pour autant, si on finit par en créer un, ce sera bien une innovation market pull, puisque, encore une fois, le besoin est clairement identifié. Donc, on peut tout à fait avoir des produits qui sont complexes, difficiles à mettre au point, et qui, pour autant, sont des produits market pull. Et alors, dans ces cas-là, ah, hop, désolé, c'est entre les flèches et la souris. Par moment, je peux utiliser les flèches à d'autres moments, il faut que je reprenne la main avec la souris. C'est pour ça que des fois, vous entendez peut-être des clics et puis vous me voyez me concentrer sur le passage. Donc, dans ces cas-là, on est dans un processus qui va être plutôt impulsé par les services de marketing. Alors, il y a des. Il y a plus, hein, ça a été largement montré, d'innovation market pull que techno push. En moyenne, les innovations techno push ont tendance à être plus radicales que les innovations market pull. La domination des services de marketing est parfois très sensible dans certaines entreprises. Moi, je me souviens avoir assisté à un rendez-vous, parce qu'à l'époque, je m'occupais des relations avec les entreprises pour l'université, c'était encore Paris Sud. Un rendez-vous entre des personnes de la R&D de chez Danone et la fondation de l'université Paris Sud, qui portait une chaire d'un collègue qui est spécialisé dans l'utilisation des technologies de la chimie pour de l'alimentation. Et donc, en gros, le discours des personnes de chez Danone, c'est que ils étaient vraiment satisfaits du partenariat, qu'il y avait des choses extraordinaires qui avaient été faites. Bon, ils avaient quand même un petit regret, c'était que certaines des inventions faites dans le cadre de la chaire, ils auraient bien aimé pouvoir les breveter, alors que le contrat, comme c'est du mécénat, évidemment, prévoyait que c'était dans le domaine public et que ce n'était pas breveté. Donc, ils avaient des petits regrets, notamment sur une méthode pour faire en sorte que les fruits qui baignent dans les yaourts où il y a des morceaux de fruits restent fermes et ne deviennent pas tout mous. Voilà, pour voir que vous ayez une idée du genre de choses qui étaient faites qui étaient expérimentées. Et la conclusion de ce haut niveau de satisfaction, c'était que ils allaient arrêter d'être partenaires de la chaire. Et la raison de ça, c'était que le marketing leur imposait d'autres axes de développement qui ne correspondaient pas aux axes de la chaire. Et donc, il y avait plus de raison pour eux de soutenir la chaire en question. Alors, qui existe toujours, elle s'appelle Cuisine du futur, mais pas avec Danone. Donc voilà, c'était assez intéressant parce que on n'est pas surpris hein, que chez Danone, le marketing domine la R&D. Je pense que ça surprendra à peu près 0% parmi vous. Mais à quel point ça peut l'être et à quel point parfois ça peut être un peu bloquant parce qu'on ne va pas aller explorer des voies qui pourraient être intéressantes pour le futur, mais voilà, la priorité, c'est celle-là. Le marketing a dit ça, donc on ne fait pas de programme d'exploration. Hein, souvenez-vous du dilemme exploration-exploitation. Donc, en tout cas, c'était une bonne illustration d'une entreprise qui est entièrement centrée sur de l'innovation market pull. Alors, un petit schéma, mais qui explique la même chose, en fait, hein. Si on part des nouveautés technologiques, qu'on en fait des produits qui répondent alors à des besoins soit existants mais non identifiés, soit nouveaux, puisqu'on peut, on peut carrément créer des nouveaux besoins qui n'existaient pas, hein. Le besoin de pouvoir rester en contact avec son réseau personnel en permanence, même pendant les cours. Je suis sûr qu'il y en a au moins deux ou trois d'entre vous qui étaient en train de regarder des messages sur leur téléphone mobile au moment où je disais ça. Il n'existait pas. Hein. Quand on était en classe, on n'éprouvait pas, on ne se disait pas, oh là là, je suis déconnecté de mon réseau. Il faut absolument que je regarde si j'ai reçu un message. Donc, on a bien créé un nouveau besoin. Alors dans certains cas, on dira que le besoin n'a pas été tout à fait créé, mais qu'il était latent. C'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas de moyen d'y répondre, en fait, on ne l'imaginait pas. Donc, alors, peu importe, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, ça n'a pas un très grand intérêt. Toujours est-il que, voilà, évidemment, dans ce sens-là, ce sont des innovations techno-push. Et puis, si on part dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on part de besoin, donc là encore, Ça peut être des nouveaux besoins qui émergent parce que l'environnement a changé, par exemple la décarbonation des technologies, ou ça peut être des besoins qui existaient déjà mais qui sont identifiés. Et à partir de là, ben, dans certains cas, on n'a même pas besoin de nouveautés technologiques et avec les technologies actuelles, on peut répondre à ces besoins. Donc, dans ces cas-là, il y a une flèche qui court-circuiterait nouveautés technologiques. Mais si on veut quand même intégrer le côté nouveautés technologiques dans le processus, eh ben, ça part des nouveaux besoins. À partir de là, on a besoin de mettre au point un certain nombre de nouvelles technologies pour y répondre. Et encore une fois, parfois, ça peut être tout à fait complexe, voire on n'y parvient pas, hein. Donc, il ne faut pas se dire que parce que c'est market pull, c'est du faiblement technologique. On dit aussi un demand pull, ce qui est d'ailleurs... Alors, market pull est plus souvent utilisé, c'est pour ça que c'est le terme que je mets dans le cours. Demand pull est plus précis, en fait, hein, puisque bah, le marché, c'est à la fois l'offre et la demande. Et quand on dit market pull, c'est bien tiré par la demande, en fait, hein, donc, en fait, demand pull on devrait plutôt utiliser demand pull, mais on utilise plutôt market pull parce que c'est le terme qui a été utilisé au départ. Alors, c'est une distinction qui est intéressante, hein, elle est notamment intéressante parce que, alors ça peut être dans un premier temps contre-intuitif, mais justement, c'est ça qui le rend intéressant et ça arrive assez souvent en management. C'est que si on est dans une logique techno-push, il faut faire particulièrement attention aux aspects marché. Et si on est dans une logique market pull, il faut être particulièrement attentif aux aspects technologiques, si l'innovation est de nature technologique. Alors, je m'explique, c'est si on est dans une logique techno-push, c'est qu'on n'a pas encore trouvé les applications principales de notre future technologie. Alors, évidemment, il ne faut pas caricaturer, on fait rarement une invention en n'ayant absolument aucune idée de ce à quoi ça pourrait servir. Hein, ça, c'est quand même assez rare. Par contre, ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est d'imaginer une technologie pour une application donnée et de s'apercevoir ensuite que les principales applications sont autres. Alors, quand on est donc dans cette situation, bah, vous voyez bien qu'il faut être particulièrement vigilant à ne pas rester dans une logique un peu, ce que j'appelle souvent une logique d'ingénieur, ça n'a rien de péjoratif hein, pour les ingénieurs et les scientifiques, mais qui consiste à être tenté de développer le plus possible les aspects techniques, bah, pour faire une preuve de concept, pour voilà, montrer que ça marche, sans trop se préoccuper pour l'instant du marché. Et ça peut être une très grosse erreur, parce qu'en fait, on va dépenser beaucoup d'énergie et parfois beaucoup d'argent à développer un produit qui, si ça se trouve, au bout du compte, bah, fonctionnera, ok, si tout va bien. Mais sera décalé par rapport aux demandes du marché. C'est bien qu'il va falloir redépenser du temps et de l'argent pour réadapter ensuite la technologie aux demandes du marché. Donc, voilà. Et si on est plutôt avec un profil technologique et avec un point de départ qui est une innovation technologique, eh bien, il faut d'autant plus être attentif à aller très tôt se confronter un petit peu à ce qu'en pensent des clients potentiels. Et puis, à l'inverse, quand on est sur du market pull, bah, on dit, OK, notre priorité, ça va être de répondre à ce besoin-là. Encore faut-il s'assurer qu'on en a bien les ressources et les moyens, en termes de compétences et de technologies. Donc, du coup, la distinction, elle est utile, sinon je ne vous en parlerai pas. A priori, j'essaye de ne pas mettre trop de trucs totalement inutiles dans le cours. Néanmoins, la réalité, elle est souvent un petit peu plus nuancée que ça. Ben, malgré tout, quand on crée une nouvelle technologie, on a toujours un peu... au moins une première idée de ce à quoi ça pourrait servir. Et finalement, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, Même si dans quelques cas, on peut avoir vraiment l'impression que c'est un tout nouveau besoin qui a été créé, il y a quand même beaucoup de cas où, au bout du compte, on va répondre à un besoin réel. Donc parfois, on le découvre après, hein, ce besoin. C'est même le principe du techno-push, mais il n'empêche que, du coup, il était déjà là. Donc, vous voyez, c'est difficile de dire, enfin, d'accord, c'est plutôt la techno qui démarre, mais quand même, et souvent, on va en avoir une première appréhension qui sera un petit peu imprécise, et puis au fur et à mesure qu'on va développer la technologie en parallèle, on va échanger avec des clients potentiels et on va mieux cerner le besoin. Donc vous voyez, du coup, le développement technologique et la connaissance des besoins s'améliorent en parallèle l'une de l'autre. Donc c'est pas d'abord je fais toute la techno et après seulement je m'intéresse aux besoins. Et puis ce qui vient encore un peu compliquer les choses parfois, c'est que ben, on peut être amené à répondre à un besoin, essayer de répondre à un besoin, et dans la réponse à ce besoin, eh bien, engendrer des nouvelles applications possibles. Bah, parmi les cas assez célèbres, il y a le Viagra, hein, qui est le résultat d'une étude pour soigner des problèmes cardiaques. Voilà, donc rien à voir avec son utilisation finale. Et en fait, c'est un effet secondaire constaté pendant les effets cliniques qui a conduit à le commercialiser avec une toute autre application thérapeutique. Donc vous voyez que ben, là, on a du mal à dire, puisqu'on était bien dans une logique market pull au départ, mais finalement, on n'a pas répondu aux besoins auxquels on souhaitait répondre au départ. Donc, et donc, ben, il y a ce côté un peu en pratique parallèle, où en permanence, on essaye d'améliorer notre connaissance des besoins et en même temps de faire avancer nos technologies. Et donc, les deux sont présents dans les nouveaux produits et l'ordre dans lequel ils apparaissent n'est pas aussi net. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une dominante hein, quand même, mais n'est pas aussi net que la façon dont on le présente quand on veut présenter la différence entre les deux. Et d'ailleurs, il a été montré par plusieurs études, hein, que parmi les facteurs clés de succès des innovations, eh bien, il y avait la qualité des relations entre les départements marketing et R&D, qui n'est pas qui n'est pas du tout quelque chose de simple à obtenir, hein, puisque vous avez deux départements qui ont des logiques totalement différentes, un vocabulaire totalement différent, des objectifs totalement différents. Donc à la base, ça peut même être relativement conflictuel, hein, des fois entre les deux départements. Mais voilà, de différentes manières, hein, il a été montré, je n'ai pas connaissance d'études qui auraient montré le contraire. Enfin, on se doute bien que des meilleures relations n'aboutissent pas à un plus faible taux de succès, mais je n'ai pas connaissance d'études qui diraient non, ça n'a pas d'impact. Donc voilà, et ayez plutôt en tête ce côté, il faut absolument assurer une coordination fine entre les deux. Et ayez quand même en tête que, notamment si vous êtes dans une logique plutôt techno-push, intéressez-vous quand même relativement tôt aux besoins.
Monsieur,
Oui.
l'entre-deux parfait entre les deux concepts de techno-push et de market pull, ce serait pas du coup le concept du MVP ou
Alors, si, tout à fait, c'est la grande différence qu'il y a entre un prototype et un MVP, hein, donc Minimum Viable Product, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Et donc, effectivement, le prototype a généralement avant tout une fonction technique, hein, de voir si ça fonctionne, alors que le MVP est fait pour tester des hypothèses au niveau des clients potentiels. Donc, si, si, tout à fait, ça fait partie des outils qui, justement, vont obliger quelque part à se centrer sur les besoins du client, même quand on a un produit technique. Après, on reparlera dans la gestion d'un projet innovant au 21e siècle de cette démarche. Ça fait partie de la démarche du Lean Startup, hein, le MVP. Et évidemment, elle n'est pas applicable à tous les secteurs d'activité. Mais c'est effectivement un outil très intéressant pour combiner les deux. Alors, je reviens, s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, hein, n'hésitez pas le cas échéant. Donc, je reviens sur notre exemple d'Intel. Du coup, c'est un bon exemple de ça, puisque au départ, ils répondent à une commande. On ne peut pas faire plus market pull que répondre à un cahier des charges, à un client qui est déjà identifié, qui vous demande merci de me. De me concevoir 12 puces avec cette fonction-là, cette fonction-là, cette fonction-là, cette fonction-là. Donc, on ne peut pas faire plus. Je réponds à une demande. Je réponds à une demande très précise, à un besoin qui est même formalisé dans un brief. Donc, et puis, je réponds à la demande. Alors, je n'y réponds pas comme c'était prévu, mais je réponds au besoin. Puisqu'au bout du compte, il va avoir une puce qui va lui permettre de réaliser les 12 fonctions qui étaient prévues au départ. Et simplement, pourquoi je bascule dans une logique techno-push? Parce que j'ai racheté les droits sur toutes les autres applications. Oui, mais toutes les autres applications, je ne sais pas lesquelles. C'est-à-dire que, vous voyez, je suis arrivé dans une situation où j'ai vraiment, pour le coup, la technologie, elle est là, j'ai déjà développé, j'ai même déjà vendu le produit, mais dans le cadre des calculatrices. Et maintenant, j'ai des droits sur tout le reste, toutes les autres applications. Et toutes les autres applications, je ne sais pas du tout à quoi ça peut servir. Donc, de ce point de vue-là, je n'ai pas connaissance de cas encore plus où c'est encore plus net. Mais ça montre aussi hein, la manière dont on peut être amené à basculer d'une logique à l'autre en fonction des opportunités qu'on peut être amené à saisir. On peut détecter un besoin en cours de route, on peut détecter un effet de notre technologie qui n'était pas prévu. Donc il faut être toujours aussi attentif à ces possibilités-là. Alors, Intel, pendant ce temps-là, le microprocesseur étant un produit sur lequel ils n'ont pour l'instant pas d'application, évidemment, ce n'est pas avec le microprocesseur qu'ils comptent faire du chiffre d'affaires rapidement. Et donc, ils continuent à évidemment améliorer le produit qui, par ailleurs, est le produit pour lequel Intel a été créé. Hein, donc, c'est vraiment le cœur de l'ADN, quelque part, d'Intel. Alors, chose assez intéressante aussi du point de vue diffusion de l'innovation, chez Intel, on va mettre en place une division qu'ils appellent Memory System Operations. Bon, peu importe, là, c'est juste histoire d'être précis. Mais par contre, ce qui est important, c'est que le rôle de cette division, c'est de proposer de la prestation d'expertise pour aider les fabricants d'ordinateurs, hein, donc, puisque leurs clients sont les fabricants d'ordinateurs, à intégrer ce nouveau type de mémoire vive, puisque c'est vraiment un tout nouveau type de mémoire donc les systèmes des ordinateurs ne sont pas conçus pour recevoir ce type de mémoire-là. Donc ils ne peuvent pas, hop, comme ça, dire, ah tiens, je prends mes mémoires à tore magnétique, je les enlève et je mets à la place toutes ces petites mémoires à semi-conducteurs. Donc du coup, Intel étant l'entreprise qui connaît le mieux le fonctionnement de la mémoire qu'ils vendent, ils proposent cette prestation pour les aider à adapter les ordinateurs pour exploiter au mieux ce nouveau type de mémoire. Donc ça a deux avantages, hein. C'est que les prestations ne sont pas gratuites, donc ça fait rentrer de l'argent. Et puis, aussi et surtout, ça développe le marché. Parce que du coup, là où la sophistication du produit aurait pu être un frein, souvenez-vous, un des cinq facteurs accélérant ou ralentissant la diffusion d'une innovation de Rogers, il y avait la complexité. Donc là, on est face à une innovation complexe. Intel va réduire la complexité de l'intégration de ces mémoires pour les clients en leur proposant des prestations. Pendant ce temps-là, ils vont poursuivre deux des trois voies technologiques d'origine. Vous vous souvenez que là, il y en a une qui a été arrêtée rapidement. Mais peu à peu, la voie Schottky bipolaire, qui avait été celle qui avait été la première à proposer des produits mis sur le marché, va prendre de plus en plus de retard. On va avancer plus vite du côté de l'équipe MOS. Ça va conduire assez logiquement à l'arrêt de cette voie. Ça illustre bien la manière dont, quand on est sur une toute nouvelle technologie, au début, on ne sait vraiment pas comment on va faire, on tâtonne beaucoup, d'où les trois équipes. Et puis, qui sait, ça aurait pu être une quatrième, une cinquième, une sixième méthode qui aurait été encore plus efficace. Par contre, peu à peu, on va consolider ses connaissances et on va dire, il est clair maintenant que c'est la voie MOS qui est la plus prometteuse. Et donc, on met le paquet sur cette façon de faire là. Et on voit en quoi c'est risqué pour des startups de se positionner sur des marchés aussi émergents. C'est qu'une startup qui aurait misé sur la voie Schottky bipolaire aurait d'abord eu l'impression de réussir, puisque elle était plus facile à mettre en œuvre que la technologie MOS. Donc, du coup, c'est pour ça qu'ils ont pu la mettre au point avant. Mais au bout du compte, elle a été très vite dépassée. Enfin, très vite. Elle a été, oui, si, quand même, assez vite dépassée. Alors, je vous ai précisé le suicide de son responsable, ce qui peut paraître pas pleinement dans le sujet. C'était aussi pour introduire un point de vigilance. C'est que dans une start-up comme ça, dans l'euphorie un peu, et puis, c'est un peu ça, l'euphorie de mettre au point quelque chose d'entièrement nouveau. C'est grisant, ce type de succès-là. On peut être amené à mentalement s'investir énormément. Et puis, on essaye d'ailleurs assez souvent dans ces entreprises-là, dans les entreprises en général, mais particulièrement dans ces entreprises-là, d'ailleurs, de provoquer cet engagement, cette implication. Donc évidemment, l'engagement et l'implication sont des choses positives, ça conduit à être plus productif, ça conduit à mettre beaucoup plus d'énergie, etc. Mais il y a un danger derrière, c'est qu'évidemment, dès lors qu'il y a une forte implication mentale, ça peut conduire à ce qu'on appelle des risques psychosociaux. Je vous le dis parce que vous pouvez être amené à y être confronté de deux façons, quelque part. D'une part, en tant que futur manager, peut-être d'équipe, où vous allez évidemment plutôt essayer de les amener à être le plus impliqués possible. Ça fait partie du management. Mais il faut savoir aussi identifier des cas de personnes qui iraient trop loin et être capable de leur demander, voire de leur imposer de lever le pied à certains moments ou avant de dépasser un certain seuil. Alors les suicides sont heureusement assez rares. Mais c'est typiquement le type de situation où les burn-out peuvent être assez facilement, on peut amener assez facilement, c'est subordonné au burn-out dans ce type d'ambiance-là. Et puis l'autre point sur lequel vous pouvez être concerné, c'est vous-même. Une partie d'entre vous souhaitez travailler dans des startups. Alors, encore une fois, je ne veux pas du tout vous décourager. C'est effectivement souvent un climat où on voit les choses avancer, où on voit ce qu'on crée, etc. Enfin, ça a plein d'intérêts. Soyez simplement vigilants si à certains moments vous sentez que ça va trop loin, que vous travaillez 80 heures par semaine non-stop et que malgré tout, la nuit, vous pensez encore à l'avancée du projet et que vous avez les premiers signes de forte fatigue qui se font sentir. Donc voilà, parce que là, à ce moment-là, un petit grain de sable, soit personnel, soit au niveau du projet, hein, et donc par exemple là ici, il est, enfin je veux dire, si le responsable s'est suicidé, c'était qu'il avait des problèmes psychologiques par ailleurs, s'il a été jusque-là. Mais il n'empêche que c'est consécutif à l'abandon de la voie Schottky bipolaire. Donc c'est aussi quelqu'un qui était ultra investi dans son équipe, qui en avait fait son projet personnel de développer ses mémoires Schottky bipolaire. Et donc, quand le management a dit bah, on arrête et on met toutes les ressources sur le MOS, bah, pour lui, ça a été le signe d'un échec violent. Après, on n'a pas les détails, hein, mais il n'empêche qu'il s'est suicidé très rapidement après. Donc, il y a quand même le lien de cause à effet est plus que probable. Donc voilà, je voulais faire juste cette petite parenthèse. Parce que, à la fois vous-même et en tant que manager, vous pouvez être concerné, j'espère pas par des suicides, mais par le risque psychosocial de manière plus générale, oui, et il faut y être attentif. Alors, donc, au niveau du procédé MOS, vous vous souvenez, hein, la toute première mémoire d'expérimentation, c'était 64 bits, la première mémoire Schottky bipolaire, 256 bits, après on a une mémoire de 1 kilobit, maintenant on est à 4 kilobits, donc on multiplie par 4 à chaque fois la quantité d'informations contenues sur les mémoires. On aura l'occasion d'y revenir, mais à ce moment-là, Intel ne cherche pas à réellement protéger ses avancées techniques. Alors, ils déposent des brevets, hein, mais ils ne les font pas respecter. Donc, alors, la raison, c'est que tout simplement, ils ont intérêt à ce que, puisque le but, c'est d'imposer ce type de mémoire le plus vite possible, à la place de la mémoire à tore magnétique. Hein. Et donc, pour ça, il faut que ça avance le plus vite possible en termes technologiques. Et donc, ils estiment que ça avancera plus vite si, en gros, tout le monde partage un peu ces innovations. Alors, ils déposent quand même des brevets parce qu'évidemment, si jamais un concurrent leur interdisait d'utiliser une technologie qu'ils estimeraient intéressante, évidemment, là, ils ressortiraient leur propre brevet. Hein. Ça a un réel intérêt. Souvenez-vous, hein, qu'on avait dit que l'un des rôles du brevet, c'était d'accéder aux technologies des autres. Donc là, à ce moment-là, Intel est plutôt dans cette optique-là. Et donc, c'est un de ses concurrents qui s'appelle Mostek qui va intégrer une méthode qui permettra de beaucoup plus facilement synchroniser la mémoire et le processeur, la vitesse et ce qui va rendre beaucoup plus facile l'intégration dans les systèmes existants. Donc, au passage, ça va rendre un peu inutile la division Memory System Operations, qui va avoir de moins en moins d'activité puis disparaître. Hein. Mais bon, c'était quand même intéressant de le mentionner parce que la logique d'aller aider les clients est quand même quelque chose qui est intéressante, qui n'est pas rare, hein, mais qui est pas non plus systématique dans le cas des entreprises technologiques. Et donc, cette combinaison entre le procédé de fabrication, enfin même pas seulement de fabrication, hein, parce que c'est les composés en fait, MOS, c'est metal oxide silicone, et puis la méthode de multiplexage de Mostek va être adoptée par tout le monde, puisque du coup, encore une fois, on ne cherche pas à breveter pour exclure. Donc du coup, on, Bah, tous les acteurs de l'industrie maintenant savent que c'est ce qu'il y a de plus efficace et donc vont adopter cette architecture-là. Et ce type d'architecture dominante, hein, quand à un moment donné les éléments essentiels d'un produit se fixent et que tout le monde va adopter à peu près le même type de structure, on parle à ce moment-là de dominant design. Alors on verra que c'est un terme qui a été amené par deux chercheurs qui s'appellent Abernathy et Utterback, qui ont intégré ça dans un système plus vaste. Mais il y a un autre moment où leur modèle, le modèle d'Utterback et Abernathy, est encore mieux illustré. Donc du coup, on le retrouvera plus tard. Mais sachez que l'une des conséquences de l'arrivée d'un dominant design, c'est que l'industrie va d'autant plus se centrer sur les procédés de fabrication, un peu moins sur les produits et un peu plus sur les procédés. On va notamment améliorer la finesse de gravure des composants sur le silicium. Et donc, bah, on va se retrouver avec un rythme assez régulier, hein, qui est que tous les 3 ans, à peu près, on va avoir une nouvelle génération de mémoire et que chaque nouvelle génération de mémoire est 4 fois, a 4 fois plus de capacité que la précédente. Ce qui, au passage, correspond assez bien à une version un peu mitigée de la loi de Moore. Donc de Gordon Moore, hein, puisque bah, lui avait dit que les processeurs dans les ordinateurs allaient doubler de capacité tous les ans. Et ensuite, en milieu des années 70, il va dire que pour les microprocesseurs, ce sera plutôt tous les 2 ans. Et en fait, on s'aperçoit que pour les mémoires, du coup, ça double tous les 18 mois. C'est la souris. Et alors, autre élément intéressant, à un moment donné, ben justement, puisqu'on se concentre beaucoup sur les procédés de fabrication, donc il y a un ingénieur qui fait des expérimentations pour essayer d'améliorer la fabrication des mémoires, et il va découvrir par hasard, dans ces expérimentations, que les rayons ultraviolets pouvaient effacer le contenu de mémoire dite ROM. Alors, c'est toujours difficile de trouver le bon équilibre entre expliquer suffisamment pour bien comprendre et puis pas rendre le cours trop technique parce que c'est pas le but, hein. Ça reste un cours de management. En gros, vous avez des catégories de mémoire qui sont destinées à accueillir des informations tant que l'ordinateur ou l'appareil est en fonctionnement. Et puis, bah, dès que l'appareil s'arrête, la mémoire se vide. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la RAM. Et puis vous avez un autre type de mémoire sur lesquelles les informations sont gravées. Et donc c'est ça qu'on appelle de la mémoire ROM parce que read only memory, hein, on ne peut pas écrire dessus, on ne peut que les lire. Donc il se trouve que Intel fabriquer aussi ce qu'on appelle aussi en français des mémoires mortes. Alors en fait, elles ne sont pas mortes, hein, mais elles ne sont pas réinscriptibles. Et donc, bah, voilà, il s'aperçoit que les rayons ultraviolets effacent des données qui avaient été écrites dans le procédé de fabrication sur la mémoire. Bah, ça permettra à Intel de proposer ce qui est quand même une troisième innovation radicale en 5 ans. Et donc, c'est pour ça que le titre global de ce chapitre, c'est innovation radicale en série. Hein, et donc, cette invention, c'est l'EPROM pour Erasable Programmable Read-Only Memory, donc de la mémoire morte réinscriptible. Alors, celle-là, elle est réinscriptible en atelier. Hein, ça ne veut pas dire que si vous en achetez, vous pouvez la mettre à jour. Par contre, ça veut dire que des professionnels, eux, peuvent effacer puis réécrire d'autres données dessus. Et ça aura, alors c'est pas du tout les mêmes quantités en termes de marché que les mémoires vives ou même la mémoire morte classique. Simplement, assez souvent, la mémoire morte, elle sert en fait à contenir les premiers éléments et notamment le système d'exploitation qui va démarrer au moment où l'ordinateur démarre. Dans l'ancien temps, ça contenait aussi les applications de base, etc. Ça voulait dire qu'avec, puisqu'on pouvait pas écrire dessus, enfin qu'une fois qu'on avait écrit dessus, ça voulait dire que, ok, vous faisiez une expérimentation, vous écriviez votre système d'exploitation, vous le mettiez sur une mémoire morte, vous le mettiez dans l'ordinateur, vous essayez, et là, évidemment, hein, on est dans du logiciel, donc vous vous apercevez qu'il y a des bugs. À chaque bug, vous êtes obligé de le corriger. Et comme vous le corrigez, vous êtes obligé de jeter la mémoire morte d'avant, puisqu'elle contient une version erronée du programme, et d'en réécrire une nouvelle. Et donc, en fait, comme évidemment, il y a dans ces phases-là des dizaines et des. Vous allez tester le programme des dizaines de fois dans des configurations différentes pour essayer qu'il soit quand même à peu près fiable quand il sortira sur le marché. Et donc, vous alliez jeter des dizaines ou des centaines de mémoires, puisqu'à chaque fois que vous faisiez même le moindre petit changement dans le logiciel, vous étiez obligé de jeter la mémoire d'avant. Alors que là, grâce à l'EPROM, vous pouvez effacer le contenu de la mémoire et réécrire dessus. Donc ce n'est pas une innovation aussi majeure hein, que la mémoire vive ou le microprocesseur. Hein. Donc vous voyez bien que tous nos ordinateurs, tous nos téléphones mobiles, etc., sont équipés de ces deux innovations. C'est vraiment des innovations majeures. Alors, ce côté. Je ne cherchais pas du tout comment effacer du contenu d'une mémoire, mais je m'en suis aperçu par hasard. Ça nous amène à la question du rôle du hasard dans la créativité, d'où la thématique de créativité sérendipité. Alors la sérendipité, c'est justement une invention dans laquelle le hasard va avoir joué un grand rôle. Alors, si je démarre quand même plus large par la créativité dans son ensemble, je pense que je prononce une grande lapalissade si jamais je vous dis que on peut pas innover sans créativité. Donc, évidemment, on peut difficilement parler d'innovation sans évoquer la créativité. Si on regarde quels ont été les facteurs identifiés dans la recherche qui influençaient la créativité des salariés, on s'aperçoit qu'il y a à la fois des facteurs individuels, on n'est pas tous égaux face à la créativité. Parmi les facteurs individuels, vous avez des traits de personnalité. On sait par exemple, et ce n'est pas surprenant, mais ça a été montré donc un niveau plus élevé de curiosité a amené toutes choses égales par ailleurs, comme disaient les économistes, à plus de créativité. Les individus plus créatifs ont tendance aussi à être moins averses au risque. Et puis, ils sont aussi plus tolérants face à l'ambiguïté, parce qu'assez souvent, je vous l'ai un peu dit au niveau des logiques, hein, l'innovation, elle va se situer à des intersections. Et donc, si vous aimez bien que les choses soient dans des cases bien nettes, qu'il n'y ait surtout pas de mélange entre vos cases, etc., bah, vous allez avoir moins de probabilité d'être très créatif, parce que bah, justement, vous cloisonnez les choses. Et donc, vous limitez les possibilités de croisement. La motivation, hein, joue un rôle important. Et là, il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Teresa Amabile, qui est vraiment l'experte, enfin, c'est la première à avoir fait des recherches très approfondies sur le sujet. Et elle a fait, enfin, ça a été son sujet de recherche toute sa carrière. Donc voilà, c'est un nom un peu incontournable dès qu'on parle du lien entre motivation et créativité. L'expertise, bon, ça ne vous surprendra pas, hein, évidemment. On va être plus créatif dans un domaine donné si on le connaît très bien. Mais à condition qu'il y ait quand même les autres aspects, hein, vous voyez, parce que parfois, vous pouvez avoir une expertise très, très pointue, mais qui vous conduit à vous enfermer dans les façons de faire du domaine que vous connaissez très bien. Et du coup, bah, vous maîtrisez extrêmement bien, mais vous laissez peu entrer des possibilités de faire autrement. Donc, l'expertise n'entraîne pas automatiquement la créativité. Par contre, si vous avez les autres éléments, ça aide, évidemment. Et puis, il y a aussi des facteurs organisationnels. Alors, notamment, on a remarqué que des personnes qui avaient inventé plein de choses dans une entreprise, bah parfois, ils changeaient d'entreprise et là, ils n'inventaient plus grand-chose. Alors parfois, c'est un peu biaisé parce que très souvent, pour faire ce type d'études, on prend en compte les brevets. Et donc, on peut avoir des cas où la personne a déposé plein de brevets, puis changé d'entreprise et elle en a déposé beaucoup moins, mais ça peut être aussi parce que la stratégie de sa nouvelle entreprise est de déposer moins de brevets et elle a peut-être continué à inventer. Mais néanmoins, voilà, on a quand même globalement des résultats qui tendent à montrer que on peut tout à fait devenir moins créatif ou plus créatif en changeant d'organisation. Donc vont jouer notamment bah, la structure organisationnelle, et là on retombe sur ce qu'on a vu hier, hein, au tout début de cette section-là du cours, de ce chapitre-là, si je raisonne en termes de chapitre, c'est-à-dire l'opposition entre les structures organiques et les structures mécanistes. Hein, donc une structure organique va avoir tendance à favoriser la créativité, on l'avait vu hier. Hein. Mais d'une manière peut-être un peu plus générale, il y a ce que Herzberg aurait appelé des facteurs d'ambiance. Et d'une manière générale, on sait, ça a été montré très tôt, hein, dès les années 40, avec des expériences de Kurt Lewin sur la manière dont les personnes modifiées soit avaient des idées, soit au moins acceptaient des changements compte tenu des pénuries qu'il y avait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il avait montré que quand dans un groupe on s'entendait bien, hein, qu'il y avait une forte cohésion, eh bien il y avait aussi plus d'innovation. Et puis, un élément important également, c'est d'accepter l'échec. Hein, donc ce qui est vrai sur la tolérance au risque, hein, au niveau individuel, bah, l'est aussi au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut accepter que des personnes lancent des projets et, entre guillemets, se plantent, hein, parce que c'est normal. Quand on veut innover, on ne peut pas tout anticiper. Et donc, il y aura forcément des échecs. Voilà, il y a des entreprises où on verra tout échec comme une source d'apprentissage. Et donc, dans ces cas-là, évidemment, on ne va pas être dévalorisé parce que on a voulu lancer quelque chose et que c'est un échec total, du point de vue commercial ou même technologique, hein. Et puis, il y a d'autres organisations. Alors, généralement, on va dire qu'on a une culture de l'expérimentation. Vous aurez peu d'entreprises qui vous diront non, non, chez nous, on ne tolère pas l'échec. Ce qu'on aime, c'est les choses sûres. Voilà. Mais la réalité est souvent un petit peu différente. Et puis la diversité favorise la créativité pour les raisons qu'on a évoquées hier, hein, de cette friction créative. Parce que si vous avez des profils différents, vous avez aussi des personnes qui ont des logiques différentes. Et si elles arrivent à malgré tout dialoguer, évidemment, c'est toute la difficulté, mais si elles arrivent à dialoguer, eh bien, ça va faire se rencontrer des logiques qui peuvent aboutir à des idées qui n'auraient jamais émergé si, qui n'auraient jamais émergé dans le cerveau de quelqu'un qui n'aurait qu'une seule de ces deux logiques. Et puis, ben, il y a des méthodes spécifiques pour améliorer la créativité. On ne peut pas les étudier ici, mais sachez que ça existe, hein. Il y a des méthodes de créativité. Et alors, bah, c'est là où on va retomber sur notre sérendipité, hein. C'est qu'évidemment, dans un contexte où vous parviendriez à réunir à peu près tous ces ingrédients-là, il y aura donc plein d'idées. Alors, d'une part, il va falloir forcément faire un peu de sélection, mais ça rejoint ce qu'on a dit au tout début du cours, donc je ne reviens pas dessus. Mais par ailleurs, il est assez logique que dans un cadre comme ça, il y ait parfois des choses surprenantes qui arrivent, des choses qui n'étaient pas attendues. Comme par exemple le fait qu'un rayon ultraviolet efface de la mémoire. Ça a deux conséquences pour que la sérendipité se transforme effectivement en innovation. D'abord, il faut que la personne qui constate le phénomène au départ ou des personnes autour d'elle, soit suffisamment curieux pour essayer de creuser. Parce que, voilà, si vous dites juste « Ah tiens, c'est bizarre, ce que j'avais écrit n'est plus là », bon allez, je jette, hein, ça ne sert plus à rien, et puis c'est pas grave, je vais réécrire, et puis je ne vais pas plus loin, bah, du coup vous n'inventez pas les proms. Par contre, si vous dites ah, c'est un phénomène super intéressant, ça, alors je le reproduis déjà pour voir si c'est bien le rayon ultraviolet. Donc voilà, je regarde d'autres éléments de l'environnement, je dis voilà, je remets un coup d'ultraviolet, ah, ça réefface encore. Bon, là, il n'y a plus de doute, c'est vraiment ça, du coup, qui a effacé. Ce n'est pas une coïncidence. Et puis vous continuez, et puis vous essayez d'expliquer physiquement ce qui se passe pour pouvoir reproduire ensuite le phénomène. Et donc, bah, si vous avez cette curiosité-là, évidemment, il y a beaucoup plus de probabilités que cette surprise se transforme en innovation. Hein. Je trouve que Pasteur l'avait très bien résumé par cette phrase, hein, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Hein, donc, il y a assez souvent une part de hasard dans les inventions, hein, mais néanmoins, si c'était tombé sur quelqu'un d'autre, l'invention n'aurait peut-être pas eu lieu. Et puis se pose la question de l'utilisation de ces inventions. Parce que bah là, quand une entreprise qui fait des mémoires trouve un moyen d'effacer des mémoires, ça n'est pas, enfin voilà, ça n'est pas très compliqué pour elle de immédiatement voir à quoi ça peut servir et d'être capable de la mettre en œuvre elle-même. Par contre, imaginez que vous êtes dans une entreprise qui fait des radars pour l'armée américaine. Et à un moment donné, vous essayez d'améliorer un appareil qui s'appelle le magnétron, qui émet des ondes très courtes. Et vous posez une barre chocolatée à proximité d'un magnétron et elle fond. Et là, du coup, vous essayez de comprendre et ça aboutit au four à micro-ondes. Ben là, évidemment, c'est un peu plus compliqué pour un fabricant de produits électroniques, notamment pour l'armée, de transformer cette invention du four à micro-ondes en produit commercialisé à grande échelle. Et ça nous amène au premier sujet que vous attendiez avec tant d'impatience. Justement, l'idée, c'est de partir de cette histoire du micro-ondes. Alors, elle n'est pas difficile à trouver, hein. Vous prenez quelques sources parce qu'ils ne mettent pas tous l'accent sur la même chose. Il y a des fois des petites nuances. Vous la reconstituez, du coup, mais ce n'est pas difficile et ce n'est pas là qu'est évidemment votre principale valeur ajoutée. Mais par contre, là où ça devient vraiment intéressant, c'est d'essayer d'expliquer. Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement sur la manière dont une entreprise qui fait une invention par accident peut en tirer le meilleur parti? Quelles conditions réunir? Quelles sont les stratégies a priori les plus adaptées? Voilà. Et ce, en vous appuyant notamment, après, vous n'êtes pas, il n'est pas interdit d'aller regarder d'autres exemples de façon moins approfondie, hein, mais l'idée, c'est de partir de cet exemple-là et de montrer en quoi il illustre les difficultés, puisque effectivement, le four à micro-ondes a été inventé par Raytheon, qui est une entreprise dont le principal client est l'armée américaine, et qui a été inventé dans le cadre de recherches sur les radars anti-aériens. Donc, on est assez loin. De la gastronomie. Je vais peut-être quand même continuer un peu parce que ça nous permettra de changer de. J'hésitais, j'ai failli, vous avez dû devoir mettre la pause maintenant, mais on a presque fini ce chapitre-là sur Intel, donc ce serait un peu dommage, mais ça ne va pas trop tarder. Puisque donc on a vu que Intel continuait à perfectionner ses mémoires, qu'ils inventaient les PROM, mais alors notre microprocesseur, on l'a un peu laissé en innovation, transformé en innovation techno-push dont on ne sait pas trop quoi faire. Ils vont déjà quand même en lancer une version un peu améliorée, parce que c'est voilà, et il voit assez vite comment il pourrait l'améliorer. Alors pour ceux qui connaissent le premier microprocesseur fonctionnait avec des séries, des mots de 4 bits, donc c'est des 1 ou des 0. Hein, là, ils lancent un microprocesseur 8 bits. Et voyez qu'on n'a pas une imagination folle chez Intel, puisque le microprocesseur 4 bits s'appelant 4004, le 8 bits s'appelle 8008. Il faut trouver les applications. Et Intel ne les a pas. Du coup, et je trouve que c'est vraiment une parfaite illustration, encore une fois, de la transformation en techno-push, hein, c'est que Intel va même faire une campagne de communication pour essayer de générer des applications, puisque eux, ils ne voient pas vraiment à quoi ça pourrait servir dans l'immédiat. Alors, quand on dit une campagne de communication, hein, ça ne veut pas dire qu'ils vont passer des clips à des heures des spots publicitaires à des heures de grande écoute à la télévision. Ça n'aurait évidemment aucun sens pour une start-up technologique qui vend à des fabricants d'ordinateurs. Donc, quand je parle de campagne de communication, c'est une campagne de communication professionnelle, c'est-à-dire qu'ils vont inviter des entreprises et leur présenter le microprocesseur, donc à travers des séminaires d'information. Ils vont quand même faire carrément des publicités, mais dans de la presse professionnelle, hein, évidemment. Alors c'est là où, je crois que je vous l'ai dit hier, mais comme je suis pas sûr, parmi les idées qui vont naître, il y a l'idée de les utiliser pour compter les voitures qui passent au feu pour après mieux synchroniser les feux et le trafic, la circulation. Donc ça sera pas vraiment une application à grand succès, mais voilà, Je la donne toujours parce que c'est la première entreprise créée par Paul Allen et Bill Gates, donc qui créeront plus tard Microsoft. Comme quoi, hein, on peut s'essayer, avoir un échec et puis recommencer après avec un autre projet. En même temps, l'idée d'utiliser le microprocesseur dans les ordinateurs, elle était quand même toujours en arrière-plan. Simplement, on considérait que le 8000, alors 4004, vraiment pas, mais même le 8008 n'était pas assez puissant, en fait, pour faire fonctionner un ordinateur. Du coup, ça ne peut pas être l'application de maintenant. Mais justement, parce que notamment Gordon Moore est forcément assez conscient de la loi de Moore, on peut supposer que dans son esprit, il se dit, oula, si on peut doubler la puissance des microprocesseurs tous les 2 ans, on pourrait obtenir des microprocesseurs qui auraient une puissance suffisante pour faire des ordinateurs. Donc il pouvait le projeter, mais pour l'instant, c'était pas du tout évident à court terme. Néanmoins, en 1973, petit cocorico, des Français vont créer une société qu'ils ont appelée RE2. On voit que c'est des ingénieurs. Et ils vont proposer une machine qu'ils vont appeler Micral, qui en fait est une sorte de premier micro-ordinateur. Alors, il n'en a pas toutes les fonctions, il n'est pas structuré comme vont l'être les micro-ordinateurs par la suite. C'est pour ça que c'est parfois, entre guillemets, zappé dans les histoires. Enfin, ce n'est pas seulement pour ça. C'est aussi parce que la plupart des histoires de l'informatique ont été écrites aux États-Unis et que, comme le Micral n'a été vendu, à ma connaissance, qu'en France, et en tout cas pas aux États-Unis, du coup, ils n'avaient tout simplement pas connaissance de ça. Mais par ailleurs, on pourrait discuter est-ce que c'était vraiment un micro-ordinateur ou pas. Peu importe, hein, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ils ont dû en vendre quelque chose comme 500. C'est pas vraiment un triomphe. En 1975, un autre fabricant de calculatrices, qui est plutôt en difficulté sur le marché des calculatrices, voit une possibilité de diversification. Et donc, eux, alors ils vont utiliser, on y reviendra par la suite, encore une nouvelle version, un nouveau microprocesseur plus puissant, qui s'appelle, c'est toujours aussi poétique, le 8080. Et donc, comme c'est un microprocesseur quand même déjà assez nettement plus rapide que le 8008, ça commence à avoir un petit peu de sens. Alors, ils visent vraiment un public très très restreint, hein, puisque l'essentiel de leur machine était vendu en kit, donc il fallait le monter soi-même. Et dans la version d'origine, il n'y a ni clavier ni écran. L'idée, c'était plutôt de programmer en langage machine. On avait juste besoin de petites diodes qui montraient que vous avez rentré un 1 ou un 0. Il y avait le petit boîtier avec ses diodes et des boutons pour rentrer des 1 et des 0. Inutile de vous dire que ça s'adressait à un public très spécifique, qui était un public d'informaticiens. L'intérêt pour eux, c'était qu'assez souvent à l'époque, enfin les ordinateurs étaient encore rares, et assez souvent je dis, mettez-vous à la place d'étudiants en informatique de l'époque, avec un exercice de travaux pratiques à rendre, hein, hop, on leur demande une programmation, ils doivent réserver un créneau parce qu'il y a un seul mini-ordinateur à l'université avec quelques postes de travail. Ils réservent un créneau d'une heure maximum parce qu'après, il faut laisser la place à un autre étudiant ou une autre étudiante. Et ils n'ont pas fini leur programme. C'est frustrant. Ils doivent reprendre un autre créneau et oh là là, ils s'y sont pris un peu tard pour réaliser leur TP. Oui, c'est réaliste, hein, mon histoire. Sur le s'y prendre en retard, tout ça. Et donc ça peut être très frustrant. Et donc, pouvoir continuer à générer son programme chez soi, bah, ça peut, par exemple, pour un profil comme ça peut être intéressant. Puis par ailleurs, il faut bien dire que la plupart des premiers utilisateurs étaient simplement des fans de technologie, hein, ce qu'on appellerait aujourd'hui des geeks, voilà, trouvaient ça super rigolo d'avoir ce type de machine et de faire des trucs pas forcément extrêmement utiles avec, hein, mais... Et bon, assez vite quand même, on a proposé un clavier et puis il pouvait se brancher sur une télévision. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant sur le type de public visé par l'ordinateur de MIT, c'est que le premier logiciel qui a été proposé avec l'ordinateur MIT, eh ben, c'est un langage de programmation. Et ce langage de programmation, c'est le BASIC. Donc, et comme son nom l'indique, était un langage de programmation relativement accessible, hein, qui a été longtemps un des langages de programmation les plus populaires. Il n'était pas très puissant, hein, mais il était assez facile à apprendre. L'une des dernières traces que vous trouverez de ça, c'est que dans Access ou Excel, par exemple, vous avez encore la possibilité de déclencher des choses avec des instructions Visual Basic. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça ou en tout cas vu que c'était possible. En tout cas, c'est à peu près tout ce qu'il reste du Basic. Et ce qui est intéressant, c'est, j'ai dit sous Access ou sous Excel, c'est que l'entreprise qui propose le Basic pour MITS, c'est justement Microsoft. Donc, vous voyez, ils se sont reconvertis très vite dans le logiciel, Allen et Gates, hein, et ils vont avoir l'intelligence de négocier, même si ce n'était pas très net et que ça a donné lieu à un petit conflit, sur le fait qu'ils avaient le droit de proposer le basique aussi à d'autres fabricants d'ordinateurs. Et puis en 1976, il y a de nouveaux concurrents qui apparaissent. Certains vont vraiment disparaître très vite. D'autres vont être des entreprises qui vont marquer un peu l'histoire de la micro-informatique, comme Commodore, hein, mais vont finir par disparaître quand même aussi. Et puis, en 1976, il y a une autre entreprise qui apparaît. Cette entreprise, c'est Apple. Et donc, après la pause, nous allons passer à un chapitre sur les premières années d'Apple. Voilà, donc on se retrouve d'ici 5 à 10 minutes.